Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes sœurs, mes chers confrères, mes sœurs, chers fidèles, pour vous, mes sœurs, qui venez de revêtir, recevoir l'habit religieux, deux choses changent. Tout d'abord, évidemment, votre aspect extérieur. Mais surtout, vous devenez aujourd'hui novice. Vous entrez dans cette période transitoire, évidemment, pour vous approcher de ce grand jour que vous attendez dès aujourd'hui. Car c'est bien sûr le sens de cette cérémonie. Ce grand jour, vous pourrez vous consacrer à Dieu pour toujours. On peut comparer le noviciat, bien sûr, à des fiançailles. On peut le comparer aux ordres mineurs que le futur prêtre reçoit. On a quelque chose, très peu de choses, de ce que l'on va recevoir, et on se prépare. Que signifie une profession religieuse, surtout aujourd'hui? Peut-être que l'on peut comparer avec la profession de la foi. À notre époque difficile, nous sommes fiers, vraiment fiers. Fiers de professer la foi catholique, ce que l'Église a toujours cru, toujours enseigné. Nous l'affirmons, nous le tenons. Nous sommes prêts à mourir pour la foi que Jésus-Christ a confiée à son Église. Nous continuons à la professer face au monde apostat. Oui, nous sommes immensément fiers. Et on nous regarde. Et les gens du monde, et malheureusement, même des gens d'église, ils nous regardent. Et ils se disent, mais comment? Comment des hommes, des femmes, au XXIe siècle, peuvent penser comme cela? Alors comme ça, il n'y aurait qu'une seule religion, la religion catholique. Alors comme ça, il faut être catholique pour aller au ciel. Alors comme ça, vous espérez qu'un jour, Jésus-Christ devienne le roi des nations. Comment peut-on penser comme cela? Et nous, nous les regardons, surtout les hommes d'Église, avec une peine immense. Oui, voilà ce qui nous peine. Bien plus que l'opprobre dont on voudrait nous couvrir, ce qui nous fait mal, c'est de voir ces hommes d'Église ne plus tout simplement prêcher ce qu'on a toujours prêché, rien d'autre. La tradition stable, la vraie tradition, la tradition qui ne change pas, la tradition qu'on transmet. Ce que l'on donne, ce qu'on a toujours cru, ce que nos ancêtres ont cru. Non, aujourd'hui, on ne veut plus croire. Et bien de même, mes sœurs, vous êtes aujourd'hui fières, immensément fières, de montrer aux chrétiens et aux gens du monde la puissance de la grâce. Quel mystère! Vous êtes heureuse de montrer ce qui se trouve, ce qui existe dans le cœur de tout chrétien digne de ce nom. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Alors évidemment, les chrétiens qui sont restés dans le monde, qui n'ont pas de vocation religieuse, eh bien, ils usent de ce monde. Mais comme n'en usant pas. Ils reçoivent avec reconnaissance, avec joie, les choses de cette terre que le bon Dieu a créées. Mais en même temps, tous les chrétiens doivent être prêts à tous les sacrifices. On ne devient pas chrétien pour avoir une sorte d'assurance. Comme ça, rien de grave ne va m'arriver. Tout chrétien, tout homme, sait que tout peut arriver. Et alors, un chrétien ne pense pas à cela tous les jours, ce n'est pas une phobie. Mais en tous les cas, au fond de l'âme, au fond du cœur chrétien, il y a cette disposition. Eh bien, le bon Dieu donne qu'il soit remercié, qu'il fasse ce qu'il veut. On est prêt à tout. Quand on est chrétien, on est prêt à tout. On est même prêt à donner sa vie. Et ça, c'est dans le cœur de tout chrétien, toute âme chrétienne. Car c'est un commandement. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est l'accomplissement de conseils évangéliques. Mais il y a un commandement pour tous les chrétiens. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Qu'est-ce que la vie religieuse? Qu'est-ce que la profession religieuse? Si ce n'est que le revers de ce commandement de l'amour total, absolu, que le bon Dieu demande, exige. Vous êtes, mes sœurs, immensément fières de montrer à tous les chrétiens ce qui existe dans leur âme. On vous appelle à partir d'aujourd'hui, on vous appellera chacune d'entre vous ma sœur, même dans votre famille. Comment vos papas vont vous appeler, on verra. En tous les cas, vous êtes véritablement une sœur. Oui, la vie du chrétien. Chaque chrétien peut s'avancer vers vous et dire « La vie qui est dans mon âme, c'est celle-là, c'est vous, ma sœur. » Ce que vous montrez par votre vie, par votre consécration, par ce renoncement à toutes les choses du monde, cet amour total qui est capable de tout pour le bon Dieu, ce que vous êtes, c'est ma vie. Oui, vous êtes véritablement ma sœur. Quelle grâce vous avez reçue de montrer à tous les chrétiens le chemin du ciel, de manifester ce qu'il y a dans leur cœur, un amour total de Jésus-Christ. Quelle vocation! Mais c'est plus que cela. La vocation religieuse, ce n'est pas seulement un épanouissement de la vie chrétienne, de la grâce dans nos âmes. La vie religieuse est une consécration. Ce que vous attendez, ce qui va se réaliser dans quelques années, vous serez consacré par les vœux de religion. Qui est le consacré? Qu'est-ce que c'est qu'une consécration dans le Nouveau Testament? Le consacré, c'est le Christ. C'est son nom. Il est le Christ, le Messie, celui qui est substantiellement, diront les théologiens, consacré dans sa substance même. Il n'y a pas de personnalité humaine en Jésus-Christ. Cet homme, qui est-il? Il est Dieu. Toute la nature humaine de notre Seigneur Jésus-Christ a été soulevée par le mystère de l'incarnation. Cet homme, véritablement homme, cet homme, qui est-il? Il est Dieu. Qu'est-ce qu'être consacré dans le Nouveau Testament? C'est participer à ce mystère. C'est avoir quelque chose de Jésus-Christ dans son âme. Tout en étant une personne humaine, évidemment. C'est une participation. On peut dire une association, une humanité de surcroît. On prolonge, on continue. On est à côté de notre Seigneur. Notre Seigneur veut nous associer à son mystère de l'incarnation, son mystère de rédemption. Il veut qu'avec lui, nous sauvions les âmes, que par notre consécration, nous obtenions pour les pauvres pécheurs la grâce de la conversion, que nous obtenions pour tous les chrétiens la grâce de la perfection. Oui, nous sommes associés. Adiutorium simile sibi. Quand Dieu créa la femme, il dit, c'est bien connu, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Faisons pour lui une aide semblable à lui. Qu'est-ce que la consécration religieuse féminine? Car l'Église ne vous demande pas, mes sœurs, de renoncer à ce que vous êtes. Et l'Église a très bien compris la femme. Le féminisme, aujourd'hui, défigure la femme, fait honte à la femme. Pour être une femme, il faudrait être comme un homme. Parce que si on n'est pas comme un homme, alors il y a quelque chose de moins bien. Mais non, un homme c'est un homme, une femme c'est une femme. Et comment le bon Dieu a-t-il créé, pourquoi le bon Dieu a-t-il créé la femme? Pour être une aide, pour réjouir son mari, pour être mère. Non mes sœurs, vous ne renoncez pas à ça. C'est quoi devenir religieuse, consacrée à Dieu? C'est bien sûr devenir des épouses de Jésus. Des âmes qui lui plaisent, des âmes qui sont là sur la terre, qui méritent, qui souffrent. Lui, au ciel, nous regarde, il ne souffre plus, mais nous voulons, nous, continuer son mystère, et vous allez manifester cela. Qu'est-ce que la vie chrétienne? C'est une association au mystère de Jésus. Que fait la religieuse? Elle manifeste cela, visiblement. Être chrétien, c'est plaire au bon Dieu, c'est obtenir des grâces pour les âmes. Bien sûr que vous serez des épouses. Bien sûr qu'un jour vous aurez un anneau. Bien sûr que vous serez des mères. Bien sûr que vous allez donner la grâce, la vie éternelle, à tant et tant d'âmes qui dépendent de vous, dépendent de votre prière, de vos sacrifices, de votre vie religieuse tout simplement. Oui, voilà comment le bon Dieu à créer l'Église. Il ne s'agit pas de détruire la nature et on ne va pas exalter, sublimer la déformation de la nature, ce qui est contre nature. Non, une femme se consacre à Dieu et elle devient l'épouse de Jésus et elle devient mère. Quand on voit un prêtre, un chrétien pense à Jésus. Le prêtre a les pouvoirs de notre Seigneur, encore plus l'évêque. C'est Jésus qui est là. C'est lui qui pardonne les péchés. C'est lui qui nous donne son corps comme nourriture. Quand on voit une religieuse, on pense à Notre-Dame. Une femme à côté, qui est là, qui reçoit, qui donne, qui aime, qui intercède. Oui, le mystère de l'Église est comme cela. Quelle immense responsabilité vous avez. Justement, en cette époque où l'Église semble, enfin les hommes d'Église évidemment, semblent perdus, ne plus bien comprendre finalement à quoi ils servent. L'Église est-elle faite encore aujourd'hui pour le salut des âmes? Voilà bien une chose dont on ne parle jamais, jamais. Absolument jamais, jamais, dans aucun discours, aucun sermon, aucune encyclique, on ne parle du salut des âmes. Alors que c'est le but. C'est pourquoi le bon Dieu a fait une église, pour sauver les âmes qui se perdent. Alors que l'église est comme désorientée. À quoi sert-elle finalement? Qu'est-ce que nous faisons dans le monde? Parler de la dignité humaine, parler de l'écologie, parler des migrants, parler de je ne sais pas quoi. Alors que l'Église ne sait plus ce qu'elle fait. Les hommes d'Église sont perdus. Quelle responsabilité vous avez, vous, de montrer ce que c'est que d'être à côté de Jésus, L'Église est une épouse. Elle n'est pas le Christ. Ce n'est pas à elle de changer la révélation. Ce n'est pas à elle de transformer les choses. Et elle n'a même pas le droit de dire qu'elle n'est pas l'épouse de Jésus et qu'il y en aurait d'autres qui pourraient se mettre à côté d'elle sur un plan d'égalité. Elle ne peut pas dire ça. Elle est l'épouse. Elle est là pour plaire et pour être mère. Vous voyez, la religieuse, par sa vie, par sa consécration, elle montre aux yeux des hommes, aux yeux des chrétiens, la nature même de l'Église, ou au moins quelque chose, un aspect très important de la nature même de l'Église. Et cette consécration, comme déjà aujourd'hui, évidemment, vous la ferez près de l'autel. On n'imagine pas une prise d'habit, une consécration religieuse, sans qu'il y ait la messe. Il s'agit de se consacrer donc avec notre Seigneur. Dès l'Antiquité chrétienne, dès que l'Église a pu le faire, elle a toujours réservé aux religieuses, aux vierges consacrées, une place spéciale dans l'Église. Pas dans le cœur, évidemment, mais spéciale. Parce que justement, les religieuses montrent à toute l'Église la puissance de la grâce. Ce sont les âmes choisies. Évidemment, il ne s'agit pas de juger des cœurs. Et on ne dit pas que telle épouse, telle femme dans le monde est donc nécessairement moins sainte qu'une religieuse. Mais quant à la vocation, quant à la manifestation de cette réalité, oui, les épouses de Jésus, les vierges consacrées, montrent la puissance de la grâce. Et elles sont là, à côté. C'est elles qui intercèdent, qui ont la mission d'intercéder pour les âmes. Et ainsi d'obtenir, encore une fois, toutes les grâces dont les âmes ont besoin. Oui, c'est à la messe que vous consacrez déjà aujourd'hui par le désir et que vous le ferez un jour dans quelques années par les vœux. Nous vous mettons sous la protection, bien sûr, donc de la Sainte Vierge, puisque en vous voyant, on devrait voir la Sainte Vierge. Eh bien, soyez de dignes filles de Marie, par votre douceur, votre bonté, comme la Sainte Vierge a été. Le jour de la Pentecôte, la Sainte Vierge n'a pas réclamé à Saint Pierre d'être préfète de, je ne sais pas quel dicastère, ridicule. Ce n'est pas sa vocation. Elle avait un rôle bien plus important, bien plus beau, bien plus intime, bien plus profond. Oui, que la Sainte Vierge bien vous protège. Et que Saint Dominique vous protège. C'est remarquable de savoir que, ici, à Fonjeau, Saint Dominique a commencé son œuvre par l'institution d'un couvent de religieuses. Avant même d'envoyer des prêtres dans le monde entier prêcher, des frères prêcheurs, il a d'abord commencé par des religieuses. Et bien que Saint Dominique, qui a commencé par vous, que Saint Dominique vous protège et que, à travers votre prière, eh bien, aujourd'hui, l'Église retrouve son identité, on peut dire, que l'Église retrouve sa raison d'être et qu'elle prêche le nom du Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.